que l'incarnation fut différée jusqu'à la fin du monde, en tant que source. Ce qui se produira à la fin des temps, ce sera la consommation de la gloire à laquelle le Verbe incarné doit conduire la nature humaine. La même conclusion apparaîtra si l'on envisage le salut du genre humain. Donc on ne regarde plus le mystère de l'incarnation en lui-même, mais l'effet, le salut, l'effet de la rédemption. Ainsi que l'écrit saint Augustin, en effet, il est au pouvoir de celui qui donne de faire miséricorde au moment et dans la mesure où il lui plaît. Et c'est pourquoi le Christ vint quand il estima qu'il fallait secourir l'homme et que ses bienfaits seraient agréés. À la suite, en effet, d'un certain affaiblissement moral du genre humain, la connaissance de Dieu commença de s'effacer parmi les hommes et les mœurs de décroître. À ce moment, Dieu choisit Abraham pour renouveler en lui la connaissance de Dieu et de la loi morale. Puis le respect qui leur était dû s'affaiblit encore, et Dieu donna aux hommes, par l'intermédiaire de Moïse, la loi écrite. Chaque moment de déclin, une miséricorde. La vision, ça c'est toute une vision de l'économie divine qui est montrée là, dans saint Augustin, et qui nous montre bien comment on peut ponctuer par la misère de l'humanité les miséricordes de Dieu, donc les venues de Dieu. Alors c'est justement ça le point de vue de la théologie de l'économie divine, c'est de comprendre comment Dieu se penche particulièrement sur l'humanité, comment la miséricorde de Dieu enveloppe davantage l'humanité quand elle connaît une misère particulière. Donc à ce moment, Dieu choisit Abraham pour renouveler en lui la connaissance de Dieu et de la loi morale. Puis le respect qui leur était dû s'affaiblit encore, et Dieu donna aux hommes, par l'intermédiaire de Moïse, la loi écrite. Les gentils la méprisèrent et refusèrent de s'y soumettre. Ceux qui l'avaient reçue ne surent l'observer. C'est alors enfin que, mu par sa miséricorde, le Seigneur envoya son Fils pour accorder à tous le pardon de leurs péchés et offrir à Dieu le Père, les hommes justifiés. On le voit. Si un tel remède avait été différé jusqu'à la fin du monde, la connaissance et le culte de Dieu et l'honnêteté des mœurs eussent complètement disparu de la face de la terre. Ajoutons en terminant, donc seconde raison, voir par le point de vue, si vous voulez, de ce que représente le point de vue du salut du genre humain, la nécessité que ce ne soit pas au terme. Ajoutons en terminant que cela n'était pas compatible avec la manifestation de la divine puissance qui sauve l'homme de multiples façons, non seulement par la foi au Christ à venir, mais encore par la foi au Christ présent et au Christ déjà venu. Donc vous voyez bien, ces raisons sont des raisons, encore une fois, des raisons de convenance, qui ne sont pas des raisons absolues, c'est bien évident. C'est la constatation, et on essaie de comprendre l'économie divine du côté de la miséricorde. C'est ça qui me frappe. Quand il s'agit de l'économie divine, saint Thomas prend tout de suite le point de vue de la miséricorde, pas la toute-puissance. La toute-puissance ne peut pas nous faire comprendre l'économie divine. L'économie divine se comprend du côté de la miséricorde. Alors, réponse à la première objection qu'on avait soulevée tout à l'heure. La miséricorde dont il est ici parlé, au sentiment même de la glose, c'est la miséricorde de Dieu glorifiant les justes. Si l'on veut l'entendre cependant de la miséricorde manifestée au genre humain par l'incarnation, il convient de se souvenir qu'au dire de saint Augustin, l'on peut comparer l'époque de l'incarnation à la jeunesse du genre humain, à cause de la vigueur et de la ferveur de la foi qui agit par amour. À sa vieillesse aussi, Oui, l'aspect relatif, les deux analogies qui jouent. À sa vieillesse aussi, car le Christ est venu au sixième âge de l'humanité. Sans doute, dans le corps, la jeunesse et la vieillesse ne sauraient être simultanées. Mais l'âme peut à la fois être jeune et vieille. Jeune en raison de son ardeur, vieille en raison de sa sagesse. C'est ça, compliment que vous faites à quelqu'un. Oh, ce que tu es vieux. Mon vieux, elle en voit très bien la sagesse. Oh, ce que tu es jeune, l'ardeur. Alors ça, c'est très très beau de voir ce qui est dit là. C'est montrer que dès que vous êtes au niveau spirituel, le point de vue biologique est dépassé. Jeunesse et vieillesse se prennent du côté biologique. Dès que vous êtes au niveau spirituel, c'est dépassé. Alors au niveau divin, a fortiori. Et c'est pour ça que c'est très difficile de regarder l'âge de l'humanité. C'est pourquoi nous voyons saint Augustin affirmer tantôt que le maître devait venir à l'humanité au temps de sa jeunesse pour l'élever à une morale plus haute. Tantôt lors du sixième âge, c'est-à-dire au temps de sa vieillesse. Saint Thomas montre là, que, faisons attention au langage de saint Augustin, il ne s'agit pas de le comprendre d'une façon tout à fait formelle. Saint Augustin parle toujours d'une façon symbolique, toujours. C'est un langage symbolique, le sixième âge, n'est-ce pas ? C'est le langage de l'Apocalypse. Et c'est vrai que quand on est dans une économie divine, le langage symbolique réapparaît très fort. Comme quand on est dans une théologie mystique. Le langage symbolique réapparaît très fort. Parce qu'on ne peut pas exprimer le point de vue du temps en dehors du symbole. Et on ne peut pas exprimer le point de vue de l'amour en dehors du symbole. Il n'y a que l'intelligibilité des principes qui dépasse. C'est pour ça que les analogies propres sont dans la théologie scientifique et les analogies métaphoriques sont bonnes pour l'économie divine et pour le point de vue d'une sagesse mystique. Oui. Bon, alors, je termine cette question, puisqu'au fond, ce n'est pas la peine de nous arrêter trop. Je crois que vous voyez bien suffisamment combien cette question unique est complexe, et qu'il ne faut pas du tout la prendre comme ayant partout la même valeur. Il y a des raisons tout à fait différentes. Et c'est même très très beau de voir ça. C'est rare que dans la même question, le Père Chenu dit toujours, quand on commente saint Thomas, la question c'est l'unité. Alors ce qu'il y a de très curieux ici, c'est que la question est en même temps une partie. C'est rare. La première partie, les harmonies ou convenances du mystère, sont une seule question. Pourquoi saint Thomas n'a-t-il pas fait les trois articles différents ? C'est une seule question. Il y a quand même quelque chose là qui est très frappant. C'est très très rare dans saint Thomas ça. Si j'essaie de le comprendre, si j'essaie de comprendre la position de saint Thomas. On voit très bien que les deux premiers articles sont à un niveau très supérieur. Convenait-il que Dieu s'incarnât ? Le point de vue de la bonté de Dieu. L'incarnation est-elle nécessaire au relèvement du salut humain ? On montre la toute-puissance, et en face de la toute-puissance, j'allais dire, la liberté absolue de Dieu de choisir un moyen unique, le plus parfait qui soit pour le salut des hommes. Donc, vous voyez, les deux premiers articles sont dans la lumière de la bonté et du dépassement de la toute-puissance par le point de vue de l'amour. Et c'est vrai, ça. C'est la toute-puissance de Dieu pouvait très bien réaliser le salut des hommes autrement. Donc, on est en face, j'allais dire, de la contemplation à l'égard du mystère de l'incarnation. Nous contemplons l'incarnation quand nous regardons comment Dieu, dans sa bonté, se communique. C'est la koinonia, la communication de la bonté de Dieu. qui touche quelque chose d'absolu. On ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de la communication. Et que Dieu se sert même du péché pour réaliser ce moyen de salut qui touche un maximum dans l'ordre de la bonté. Ça, c'est très très beau, parce que je crois que ça donne la clé, vous voyez, comment dans l'Évangile, miséricorde et amour vont de pair. Je vous ai dit souvent, hein, nous faisons des petites distinctions très nettes entre les pauvres types que nous aidons et puis nos amis. C'est normal, au point de vue de la prudence, ce n'est pas possible autrement. Dieu enveloppe le pauvre, le pécheur, de sa miséricorde. Et plus il lui fait miséricorde, plus il l'aime. Il le prend comme ami. Alors, est-ce que ce n'est pas le fondement ici? Vous voyez, au point de vue théologique, il faut toujours essayer de comprendre. Enfin, on voit dans l'Écriture ces lois, cette loi de l'économie divine, qui est frappante. Hein. Si vous voulez, dans Saint Jean, ce que j'appelle le cycle de l'agneau, le cycle de l'époux. Pourquoi Jésus ne fait pas à l'égard de son peuple, puisque c'est lui qui est le point de vue de la révélation tout de suite de son amour, la miséricorde et l'amour. Les deux se tiennent, l'agneau et l'époux. Et il y a ces deux qui se tiennent d'une façon indivisible et qui nous font comprendre, je crois, un des aspects profonds du cœur du Christ. Alors, nous trouvons ici, la raison, elle est ici. Et c'est pour ça que c'est si important l'agencement de l'article 1 et de l'article 2. L'agencement de l'article 1 et 2 nous fait comprendre comment, dans sa toute-puissance, Dieu pouvait très bien distinguer les deux. Il pouvait très bien, dans sa toute-puissance, pardonner aux pécheurs et puis dire « mes amis ». Seulement mes amis recevront la plénitude. Pas du tout, ce sont les pécheurs qui reçoivent la plénitude. Puisque pour les pécheurs, le mystère de l'incarnation. C'est extraordinaire. Pour les pécheurs, le mystère de l'incarnation. Le mystère de la plus grande communication de l'amour, c'est pour les pécheurs. Alors voyez, là, les deux articles, si vous essayez de comprendre le lien de ces deux articles, ils nous donnent la clé. Ça, c'est quand même très important. C'est important parce que ça donne toute une lumière profonde, hein, au point de vue de ce que représente la sagesse de Dieu pour nous. L'article 3, c'est un moment de suspension, hein, en quelque sorte. Utrum, si non fuisset peccatum, Deus incarnatus fuisset. Alors, c'est un moment de recul parce que c'est la condition sine qua non, hein, le « si ». On va prendre une hypothèse, en quelque sorte. On entre un tout petit peu dans le fait. Si le péché n'avait pas lieu, est-ce que Dieu serait incarné? C'est là, on essaie de réfléchir sur la conjonction et le lien entre l'article 1 et l'article 2. Est-ce que l'article 1 et l'article 2 sont liés d'une façon telle qu'on ne peut pas les séparer? L'incarnation, c'est pour le pécheur. Parce que l'amour et la miséricorde en Dieu sont tellement liés, la miséricorde c'est pour le pécheur, c'est bien évident, mais le maximum d'amour va aller là où il y a le maximum de miséricorde. Alors est-ce qu'on peut lier ça? Alors là, l'article 3 vient montrer que le lien qui existe entre l'article 2 par rapport à l'article 1, attention, on ne peut pas le dire de façon absolue. Saint Thomas incline, il incline sur ça. La miséricorde la plus grande est donnée au pécheur, et par le fait même le plus grand amour pour lui. Il incline vers ça. Mais il montre qu'on peut très bien dire, oui, l'incarnation aurait pu avoir lieu sans le péché. C'est bien évident, je ne peux pas nier. Je ne peux pas nier, l'incarnation aurait pu avoir lieu. Et il y a certaines raisons qui peuvent militer pour ça, en disant que c'est uniquement pour la finalité de la gloire du Père. Et que l'incarnation est avant tout et en premier lieu pour ça. Et donc, ça peut se séparer à l'égard du péché. Ça, c'est très très beau comme regard réflexif de critique. C'est vraiment le moment de critique par rapport à l'article 1 et par rapport à l'article 2. C'est-à-dire, autant qu'on peut, voyez, saisir la jonction dans la très sainte Trinité entre la bonté, la misère et la toute-puissance, au fond. C'est toujours cette contemplation vers laquelle on doit regarder. Bonté, justice, toute-puissance. C'est le joint de ces trois. Et tout le traité de l'incarnation, ça doit être ça. Le joint de ces trois. Comment comprendre le lien en Dieu, entre le lien, l'identité en Dieu, entre la toute-puissance, la justice et la bonté. Et ceux qui sont inclinés à voir la toute-puissance en premier lieu seront inclinés à voir la justice dominante. Ceux qui sont inclinés à voir la miséricorde en premier lieu, voyez, c'est autre chose. Alors quelquefois, même la justice est complètement absorbée. Et on ne voit plus que la miséricorde. Et la miséricorde, c'est lié à l'amour. C'est ce joint, je crois, qui est donné avec l'article 3. Et cet article 3, alors, est très, très intéressant pour saisir, j'allais dire, la sensibilité théologique de saint Thomas. C'est peut-être là où on la saisit le mieux. Comment saint Thomas est-il théologien, vous voyez ? Parce qu'on est devant une option, un choix, où vous pouvez d'une certaine manière dépasser le point de vue de ce qui est révélé. Vous ne pouvez pas creuser un peu plus et découvrir quelque chose d'autre. Voyez, c'est, chaque fois que saint Thomas dépasse un tout petit peu la révélation, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit. Je vous ai dit à propos, par exemple, quand saint Thomas parle de l'amour particulier de Jésus pour Jean à la comparativement à Pierre. Saint Thomas, en théologien, sait très bien qu'on ne peut pas dire. Et cependant, il dit. Alors, c'est ces moments-là où on saisit la sensibilité du théologien. On saisit le théologien qui exprime, je crois, comme un secret du cœur, qui provient au-delà des arguments objectifs de son lien avec Dieu, de son lien avec le Christ. Et c'est ça qui prépare la théologie mystique. C'est là où on voit très bien que saint Thomas ne rejette pas la théologie mystique. Il sait très bien que la théologie scientifique ne dit pas tout. Et ne peut pas tout dire, c'est impossible. Parce que si elle disait tout, la transcendance du mystère ne serait pas respectée. Alors elle ne peut pas tout dire, il y a nécessairement un dépassement. La théologie scientifique doit le plus loin possible, elle doit aller le plus loin possible, mais la théologie mystique peut seule montrer qu'en définitive, la révélation est premièrement une révélation qui nous communique l'amour. Dieu est plus père que maître, si vous voulez. Dieu est plus père que maître. Et si Dieu est plus père que maître, eh bien oui, l'amour primera toujours. Et il y aura toujours quelque chose qui nous échappera. Où nous serons obligés de faire un acte de foi à l'état pur. La théologie ne pourra pas. Il est un maître admirable, il est merveilleux dans son enseignement, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il est quelque chose de plus. Oui, je crois ça très important à saisir ça avant, parce que ça fait comprendre la sensibilité, une sensibilité, vous voyez, quand je dis sensibilité, ce n'est pas une question de sensibilité extérieure, c'est une sensibilité intérieure, une sensibilité mystique, sensibilité du cœur, le lien entre l'intelligence et le cœur. Hein, c'est là où on saisit ce point de vue, la perspicacité de l'intelligence, si vous aimez mieux. Parce qu'au fond, c'est ça, la perspicacité de l'intelligence. Quand il dit que Jean était plus aimé de Jésus à cause de la perspicacité, il ne dit pas l'intelligence, il dit la perspicacité de l'intelligence, c'est autre chose. Eh bien, je crois que là, on saisit la perspicacité de l'intelligence de saint Thomas par rapport au mystère de l'incarnation et de la rédemption et le lien entre les deux. Donc là, il y a une attitude de réflexion très importante entre l'article 1 et l'article 2. Alors, dans l'article 4, on entre dans cette perspective que l'incarnation nous est donnée pour le mystère de la rédemption. Dans le mystère de la rédemption, qu'est-ce qui est premier ? Vous voyez, toujours chercher l'ordre, hein, c'est l'ordre que le théologien de théologie scientifique cherche l'ordre. Qu'est-ce qui passe avant? C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est le péché? Jésus est venu effacer le péché originel en premier lieu, plutôt que le péché actuel. Alors, ce regard, c'est très curieux, ce regard de la miséricorde, puisque c'est la miséricorde qui domine, c'est la miséricorde à l'égard du pécheur qui domine, à l'égard du péché le plus fondamental, celui qui est source de tout, et d'autres détraquages, c'est celui-là. Celui que l'homme ne peut pas effacer par lui-même. Vous voyez comme c'est différent. Si vous mettiez du côté de l'amour, ce serait tout à fait différent. Le côté de l'amour regarde la personne en premier lieu et non pas la nature. Là, c'est un péché de nature, le péché originel. C'est un péché de nature, c'est celui qui touche. Ce n'est pas le péché personnel. Et alors, au point de vue de la miséricorde, on regarde le plus grand obstacle en premier lieu. C'est le plus grand obstacle. C'est ce qui empêche le plus l'homme d'être joint à Dieu. Et donc, c'est celui-là qui regarde. Alors que si vous mettiez du côté de l'amour, vous auriez un autre raisonnement. Alors là aussi, c'est très important de bien saisir cela. On est vraiment dans la perspective de la miséricorde. La rédemption, c'est la miséricorde de Dieu qui nous est révélée. Alors, 5 et 6 que nous venons de voir essaient, là encore, de montrer autant qu'on le peut la sagesse qui est éternelle, qui s'inscrit dans le temps. Comment la sagesse va-t-elle inscrire dans le temps ce moment unique de la miséricorde de Dieu pour nous? Doit-il arriver au terme? Doit-il arriver dès le commencement? Doit-il arriver au terme? L'alpha et l'oméga, tout de suite. Puis on voit que c'est la plénitude des temps. In medio. Alors, in medio, comprenez bien. Pas d'une façon arithmétique, mais d'une façon beaucoup plus profonde. Parce que je crois, alors là, ça c'est une perspective que saint Thomas ne souligne pas ici, mais je crois qu'on pourrait très bien saisir ça. L'immédio n'est pas du tout au milieu de l'humanité. Pourquoi? Parce que le temps après le Christ n'est plus le même qu'avant. De sorte que vous ne pouvez pas faire une équation comme ça. Ça ne signifierait rien du tout. Avant et après, immédio. Non. Après le Christ, tout va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que l'humanité connaît dans le Christ une maturité unique. Alors, si elle connaît dans le Christ une maturité unique, on comprend qu'après le Christ, j'allais dire, le temps a une valeur tout autre qu'avant. Et c'est ce qui explique comment l'humanité, après le Christ, a une possibilité de perfection et une possibilité de dégradation beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que le temps après le Christ n'est pas le même qu'avant. De sorte que in medio, comprenons bien, c'est pas du tout, hein, comprendre avant et après le même temps, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la plénitude. Et que nous ne pouvons pas comparer ce qui est avant et ce qui est après. Et alors là aussi, hein, la théologie de l'économie divine nous le montre très bien. Il y a deux temps tout à fait différents. La grande montée vers le Christ, ponctuée par les chutes et ponctuée par les miséricordes, ponctuée par les alliances. Et puis au contraire, quand le Christ est venu, le mystère de l'Église, le plérôme du Christ, c'est le Christ qui continue, la mission du Christ qui continue. Donc c'est tout à fait différent, ce n'est plus du tout la même, on ne peut pas mesurer de la même façon. La durée de l'Église est autre chose que l'histoire sainte. C'est deux choses tout à fait différentes. L'économie avant le Christ et l'économie après le Christ ont deux aspects tout à fait différents. Ils ont des principes différents. Tous sont enveloppés de la miséricorde, mais la miséricorde n'a pas le même impact, la même profondeur avant l'arrivée du Christ et après l'arrivée du Christ. Alors, entrons tout de suite dans la question 2. Si on le peut, parce que je voudrais bien, n'est-ce pas, qu'on revienne sur cette question pour que vous puissiez vous exprimer, si une fois on a le temps, ça peut arriver quand même, le Seigneur peut être libéral dans son temps. Si une fois on a le temps, on pourra faire une question disputée. Vous voyez, avoir deux heures ensemble sur lesquelles on puisse discuter la fameuse question des motifs de l'incarnation. Ce serait intéressant, en respectant bien la position de saint Thomas, c'est-à-dire en respectant bien cette position de saint Thomas qui est d'une extraordinaire, comme toujours saint Thomas, d'une extraordinaire simplicité dans sa sagesse. C'est merveilleux, c'est grand. J'espère que vous voyez bien les trois étages de la question. Il y a trois étages. Hein. Premier, la bonté et la toute-puissance. Deuxième, petit moment de réflexion là-dessus. Puis ensuite, étant donné, second étage, étant donné que l'incarnation est en vue de la rédemption, qu'elle est principalitaire ordinavit pour le salut des hommes, sur quoi porte le salut? Et puis, troisième étage, l'incarnation dans le temps. Il y a trois moments différents. Et c'est pour ça que cette question est si complexe. Parce que d'habitude, ce que nous allons voir, ce que vous voyez habituellement dans saint Thomas, la question a une unité beaucoup plus grande. Là, il y a une unité qui est merveilleuse, mais qui implique des quantités de choses. Alors, nous entrons dans la seconde partie. Vous voyez, nous allons vite. Nous sommes déjà dans la seconde partie du cours. Nous entrons dans la seconde partie du cours, ici. Seconde partie du mystère de l'incarnation, telle que le ponctue saint Thomas. Première partie, les harmonies, ou les convenances. Deuxième partie, le mode d'union du Verbe à la nature humaine. C'est la partie la plus spéculative, la plus rude, merveilleuse. C'est extraordinaire. C'est essayer de contempler ce que l'Église, dans ses conciles, a précisé. C'est vraiment à l'égard de l'enseignement de l'Église. Le Verbe est uni à la nature humaine selon un mode, selon une union hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Autant qu'on peut le savoir. Mais le commodo de cette union, comment se réalise cette union? Donc le mode d'union. Puis là, troisièmement, les conséquences de cette union. Alors, le mode d'union par lequel le Verbe s'incarne en notre nature. Il nous faut étudier maintenant de quelle manière des modos. Alors, c'est toujours ces expressions de saint Thomas qui sont si difficiles, hein, le mode des modos. De quelle manière le Verbe s'unit à la nature humaine. Du mode de l'union du Verbe. Nous traiterons d'abord de l'union en elle-même. Quantum ad ipsam unionem. L'union en elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette union? Autant qu'on peut le savoir. Hein. Puis, de la personne à laquelle se fait l'union. Et enfin, de la nature qu'étudie. C'est un ordre tout à fait logique, hein. Mais vous voyez que c'est très important. Hein. Vous partez de l'union, le fait. Cette union existe. Elle est. Il y a quelque chose de nouveau pour nous. Il y a cette union. Dans la foi, je sais que cette union existe. Hein. Partons de la foi. Hein. Je ne suis pas du tout dans la position de Pannenberg. Hein. Tout à fait différent. Hein. Tout à fait différent. Je suis dans une position verticale. Très très vertical, et là c'est un très vertical. Je pars de la foi, je sais que cette union existe, je vais essayer de la contempler. Elle est digne de contemplation. Et pour mieux la contempler, je vois le principe actif, immanent, le Verbe, la personne divine. Pourquoi c'est pas le Père? Pourquoi c'est pas l'Esprit Saint? Il aurait pu envoyer l'Esprit Saint en dernier. C'est plutôt l'Esprit Saint qu'il aurait dû envoyer. Non, c'est le Fils. Et puis, la nature. Donc, on voit très bien que tout est ordonné à cette contemplation très très belle. Le Verbe est devenu chair. C'est Il faut tout le temps revenir à cette affirmation de saint Jean, qui est, je crois, l'affirmation la plus forte de toute l'Écriture. Le Verbe est devenu chair. Vous voyez, qui est au-delà de toutes les conclusions du théologien. Toutes les conclusions du théologien sont moins fortes que cette affirmation. Et c'est cette affirmation qui est tout le temps celle à laquelle nous revenons. Il faut l'avoir dans notre cœur, il faut l'avoir sur notre front, il faut l'avoir sur nos mains. Le Verbe est devenu chair. C'est pour nous la grande, grande affirmation. Et c'est tout ce que le théologien, tout ce que l'Église a précisé, tout ce que le théologien va préciser à la suite de l'Église, c'est toujours pour avoir une intelligence contemplative plus grande du Verbe devenu chair. Alors, au sujet de l'union elle-même, diverses questions se posent. L'union du Verbe incarné se fait-elle dans la nature ? Facta in natura. Vous voyez, l'union dans la nature, c'est par exemple l'union de la matière et de la forme. C'est l'union de l'âme et du corps. Mon âme est unie à mon corps dans la nature. C'est l'union dans la nature, ça. Et on comprend très bien, on comprend tout de suite cette union-là, parce que c'est l'union habituelle. L'union dans la nature, c'est ça qu'on voit tout de suite. C'est la forme qui informe la matière. C'est l'union d'une œuvre d'art qui fait qu'on a une réalité. Donc ça, c'est, j'allais dire, c'est l'union la plus grande que nous pouvons expérimenter. La plus grande union, et c'est pour ça que tout de suite on vient là, vous voyez, c'est ça qui est très important, pour tout de suite le dépassement par rapport à ce que nous sommes habitués nous de connaître. La plus grande union, mais c'est l'union de l'âme et du corps. Oui, c'est l'âme habite notre corps, et puis ils font pas trop mauvais ménage. De temps en temps, il y a des ruades du vieil âme, mais quand même, ça fait. Et c'est pour ça que quand cette union est ancienne, plus elle est avancée, plus c'est difficile la séparation. C'est évident. Un vieillard meurt très lentement et difficilement. Un jeune homme, avec une rapidité. Alors, on comprend très bien ça, cette question-là. L'union du Verbe incarné se fait-elle dans la nature ? Se fait-elle dans la personne ? Vous voyez, saint Thomas aurait pu tout de suite partir. L'union hypostatique, ben, l'union hypostatique, ce n'est pas l'union in natura. L'hypostasie, ce n'est pas la nature. Non. Il met ça pour nous. Quoi nos, hein ? Il éduque. Au point de vue de la foi, je n'ai pas besoin. Hein, quand vous enseignez le catéchisme, vous n'allez pas commencer comme ça. Non, vous prendrez tout de suite l'union hypostatique. Mais si vous avez affaire à des petites intelligences très éveillées, alors à ce moment-là, vous direz, ah, cette union dans la personne, c'est pas la même que l'union de l'âme et du corps. Hein? Alors ça viendrait après, ici ça vient avant, pour l'aspect négatif. Se fait-elle dans le suppôt, dans l'hypostase ? Alors là, ça devient beaucoup plus chinois, hein? Parce qu'il y a la personne, le suppôt, l'hypostase. Alors vous allez. Vous voyez, comme là, évidemment, on comprend très bien. Un théologien, enfin, un philosophe qui est habitué à Hegel, et qui lit ça. Oh, c'est terrible, cette théologie qui est liée à l'aristotélisme d'une façon effrayante. Je veux dire, spontanément, reprenons tout ça, parce que la philosophie hegelienne est bien plus avancée. Au moins, Aristote, c'est avant. Hegel, c'est au moins une philosophie chrétienne. C'est évident, puisque Hegel est chrétien. Donc c'est une philosophie chrétienne. Donc c'est une philosophie bien plus affinée. Alors, il faudrait prendre ça. Il faut de temps en temps se placer comme ça vous voyez, dans la perspective hegelienne. Ce que je dis, c'est pas une hypothèse, puisque ça se fait. Vous savez bien, ce théologien commençant le traité de la Très Sainte Trinité, eh bien, nous ferons la Très Sainte Trinité dans la lumière de Hegel. Ça s'est fait à l'Institut catholique. Dans la lumière de Hegel. Ben oui, dans la lumière de Hegel, faisons le mystère de l'incarnation. Parce que c'est le terme de l'évolution. C'est magnifique. C'est la manière dont on peut saisir la chose. Alors, je comprends que ces analyses, qui sont d'analyses typiquement relevant de la philosophie grecque, du passage du grec au latin. C'est quand même pas commode pour des gens qui n'ont pas la bonne volonté d'entrer dedans. La personne ou l'hypostase du Christ après l'incarnation est-elle composée ? Y a-t-il eu un petit changement du côté du Verbe ? Dans le Christ, l'âme et le corps sont-ils unis ? Ah, et si je reprends l'union de l'âme et du corps, après m'être élevé loin ? Dans l'union de la nature humaine au Verbe, est-elle accidentelle ? Cette union est-elle quelque chose de créé ? L'union est-elle identique à l'Assomption ? Est-elle la plus étroite qui soit ? Ça, c'est très important. L'union des deux natures dans le Christ a-t-elle été réalisée par grâce ? A-t-elle été précédée de quelques mérites ? Y a-t-il dans le Christ, en tant qu'homme, une grâce qui lui serait naturelle ? C'est beau, si vous essayez de saisir hein, ce moment où saint Thomas essaie. Ça devait être très intéressant de voir comment saint Thomas élaborer une question. Hein. Toutes les ramifications y sont présentes. Si vous essayez de saisir, hein. on la reprendra au terme, parce que c'est au terme qu'on comprend le mieux la ramification, la structure. Hein. Faut jamais quitter saint Thomas sans voir la structure de la question. On entre dedans, ne cherchez pas trop au début, parce qu'au début vous êtes faible et vous êtes myope, alors par rapport à saint Thomas, vous avez de la peine à comprendre. Mais au terme, l'ayant analysé chacun des articles, vous revenez pour essayer de saisir l'article qui domine tout. Quelquefois, ils sont deux. Je crois que dans la question qu'on a vue précédemment, il y en a deux. Il y a deux axes. C'est normal. Hein, l'axe de l'incarnation, l'axe de la rédemption. Alors, il y a deux axes. Et ces deux axes vont se heurter mutuellement. Il n'y en a pas qu'un seul, parce qu'il ne pourrait pas répondre pleinement à tout. Alors il y en a deux. Ordinairement, il y en a un. Mais c'est normal que du côté de l'incarnation, il y ait toujours deux axes. Hein. C'est peut-être ce qu'on va voir. Et donc que le traité de l'incarnation a, par rapport à tous les autres traités de saint Thomas, quelque chose de très très différent, comme méthode théologique. Il a deux axes, parce qu'il a l'axe du Verbe et l'axe de la nature. Oui. Il y a l'axe de l'incarnation et l'axe de la rédemption, qui sont deux actes qui ne peuvent pas se compléter pleinement, puisqu'on a vu que Dieu aurait pu sauver les hommes autrement. Donc il y a un hiatus entre les deux. Et on ne peut pas de l'un conclure l'autre. Donc il y a la liberté de Dieu entre les deux. Et c'est de fait ce que je crois la complexité au point de vue théologique du traité du Verbe incarné. Quand vous traitez le traité de la grâce, c'est plus simple. Si j'ose dire, hein. Quand vous voyez le traité de la très sainte Trinité, c'est plus simple, puisque vous êtes dans la simplicité absolue de Dieu. Et c'est tellement simple que vous ne voyez rien. Et c'est tellement simple à cause de ça, tandis que le traité de l'incarnation n'est pas simple. Vous ne pouvez pas dire hein, que le Christ a comme première manière d'être la simplicité. Non. Certains l'ont dit. Alors ils ramènent tout au Verbe, ou ils ramènent tout à la nature humaine. Non. C'est pas la simplicité, c'est la composition des deux. C'est l'union, mieux que la composition. C'est l'union. Et l'union qui se fait en Dieu, puisque ça se fait dans le Verbe. Il reste combien de temps ? Combien ?
Deux minutes.
Article premier. Et puis je m'arrête.